Les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine.
Disons bien la vérité aux gens, il faudra retirer ce budget ailleurs.
Deux scénarios s'offrent à nous, soit un scénario gris.
Vous n'avez pas les moyens de faire votre plein ? Bah c'est pas grave, vous payerez en ticket resto, c'est ça la réponse ?
Alors que le gouvernement autrichien, espagnol, portugais, italien et allemand, eux, ont décidé de vouloir taxer les surprofits.
Nous n'avons pas d'opposition de principe à celle-ci, mais cela nous renvoie à nos discussions budgétaires de l'automne dernier.
En ayant fait le choix de faire une politique au service des grandes fortunes, il s'est privé d'une manne financière chaque année depuis presque 10 ans.
Sébastien Lecornu qui affirme contre toute évidence que le prix des carburants va baisser dès la semaine prochaine. Et la pétition contre une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme qui a déjà recueilli 500 000 signatures. C'est le sommaire de ce numéro 145 du Bourbon de Serge. Si vous pensez que la crise énergétique va s'arrêter avec le cessez-le-feu décrété par Donald Trump au Moyen-Orient, vous vous trompez. D'abord parce que la guerre continue au Liban. Ensuite parce que le plan en 10 points soumis par les dirigeants iraniens via la médiation des Pakistanais comporte plusieurs dispositions inacceptables pour Washington. Le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Hormuz, la poursuite des activités d'enrichissement de l'uranium, le retrait des forces américaines du Moyen-Orient ou encore la libération des avoirs gelés par les sanctions internationales. Sauf à ce que le président américain ait perdu la raison, hypothèse qu'il faut désormais prendre au sérieux, ces demandes ne peuvent aboutir, d'autant que la trêve n'a été conclue que pour une durée de 2 semaines. Ce contexte rend donc parfaitement illusoire les déclarations de notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, devant les sénateurs hier mercredi.
Lorsque la crise a démarré, les prix ont augmenté très très vite à la pompe, alors que les citernes avaient été achetées et remplies avant le début de la guerre. Donc autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Et le ministre Papin, d'ailleurs, aura l'occasion d'y revenir sur différentes initiatives de contrôle.
Lundi prochain, le prix à la pompe devrait donc baisser. Oui, mais de combien ? Car la production de pétrole et de gaz, ce n'est pas un robinet que l'on tourne. Dimanche dernier, le 5 avril, l'OPEP a averti que la remise en état des installations énergétiques endommagées par les attaques iraniennes prendrait beaucoup de temps. 29 sites ont été détruits, partiellement ou complètement, par les drones de Téhéran qui ont frappé 9 pays de la région. La production du Bahreïn est à zéro. Celle de l'Irak a chuté de 78%, le Koweït a perdu 65% de sa production et l'Arabie Saoudite un quart de la sienne. La remise en état des installations va se compter en mois, si ce n'est en années. Soyons cependant optimistes et envisageons qu'un coup de baguette magique vienne à rétablir le niveau de production antérieur. Eh bien, la situation ne s'améliorerait qu'à la marge. Car dans la négociation qui s'amorce avec les États-Unis, Téhéran veut pérenniser le péage qu'elle a mis en place pour les navires qui veulent franchir le détroit d'Hormuz. 2 millions de dollars par bateau selon les chiffres qui circulent. Et qui va payer à l'arrivée ? Le consommateur, tiens donc. Le plus fort de l'histoire, c'est que Sébastien Lecornu envisage lui-même l'hypothèse d'un détroit d'Hormuz privatisé par les Iraniens.
Deux scénarios s'offrent à nous, soit un scénario gris, je ne veux pas le qualifier pour être prudent, soit au contraire un scénario davantage tourné autour du droit international, d'une coalition internationale, quelque chose qui permet d'assurer la liberté de circulation. C'est la crise de liberté de circulation qui crée la crise d'inflation et de prix dont on va revenir dans un instant.
C'est drôle, mais je penche pour le scénario gris, et même gris foncé au vu du contexte. La question est de savoir ce qu'on fait pour encaisser ce nouveau choc pétrolier et gazier.
Qu'il faille trouver des mesures pour accompagner ceux qui vont au travail, il le faut. Je sais que le gouvernement travaille dessus, mais par contre, il faudra bien expliquer qu'à un moment, il va falloir renier sur autre chose. Si on donne une aide qui n'était pas prévue dans le budget pour le carburant, ce qui est nécessaire, notamment dans les territoires comme le mien, qui sont ruraux, où les gens prennent leur voiture pour aller travailler, où il n'y a pas de transport en commun, où il n'y a pas de facilité sur nos territoires, il faut quand même expliquer qu'à un moment, il faudra faire peut-être des concessions ailleurs dans le budget Et je pense que ça, il faut qu'on l'entende. Ça sera peut-être des subventions en moins à certaines associations. Ce sera peut-être, une remise en cause d'un certain nombre de relèvements de minima sociaux ou autres. De toute façon, il faudra trouver l'argent parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc oui, trouver des solutions, mais des solutions mesurées, ciblées, qui vont aux travailleurs et à ceux qui en ont le plus besoin. Ça me paraît important. Parce qu'il faut qu'on puisse continuer à faire tourner notre pays au niveau de sa production et du travail. Et qu'en tant que citoyen, aller au travail à perte, ce n'est pas possible. Donc on a tout intérêt à trouver des mesures. Mais disons bien la vérité aux gens, il faudra retirer ce budget ailleurs. Donc faire des concessions ailleurs.
Rendons cette justice à Perrine Goulet, elle s'exprime sans détour. Un scénario qui fait bondir la porte-parole du groupe Lyot, d'ordinaire beaucoup plus réservé.
Franchement, on est consterné. C'est à se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Déjà, quand on voit à quel point le gouvernement minimise le terme même de crise pétrolière, de qui se moque-t-on en fait. Ça fait une semaine qu'on nous annonce un paquet de mesures qu'on ne voit pas venir, à part ouvrir le sujet des tickets restaurants. De qui se moque-t-on? Vous n'avez pas les moyens de faire votre plein? C'est pas grave, vous payerez en tickets resto, c'est ça la réponse? Le ticket restaurant, il est prélevé sur les salaires des gens et il est complété par l'entreprise. La vocation du ticket restaurant, c'est d'aller soutenir les restaurateurs qui eux-mêmes vivent une crise grave. C'est absolument pas au niveau de la crise qu'on traverse.
Nos voisins sont davantage à l'offensive, comme le rappelle François Ruffin.
On avait déjà eu les profiteurs de la crise Covid, le gouvernement n'avait rien fait. On a eu les profiteurs de la guerre en Ukraine, le gouvernement n'a rien fait. Maintenant, on a les profiteurs de la guerre en Iran et le gouvernement qui se croise les bras et qui attend. Alors que le gouvernement autrichien, espagnol, portugais, italien et allemand, eux, ont décidé de vouloir taxer les surprofits.
François Ruffin fait référence à cette initiative commune dont je vous parlais lundi. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et le Portugal réclament la création d'un impôt européen exceptionnel sur les bénéfices des compagnies énergétiques. Depuis le banc de touche, la France se contente de regarder le match avec l'enthousiasme d'un ballon dégonflé un jour de finale.
Sur la question des profits, une initiative européenne, comme vous le savez, a été lancée par un certain nombre de pays. Les ministres sont actuellement en train justement de l'expertiser. Pour être très clair, nous n'avons pas d'opposition de principe à celle-ci, mais cela nous renvoie à nos discussions budgétaires de l'automne dernier. Quelle est son assiette? Quel est son rendement? Comment ça fonctionne? Je pense qu'il ne faut pas qu'on mente aux Français sur les capacités justement de cette initiative. En tout cas, il n'y a pas d'objection.
Sans attendre, en Espagne, le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a divisé par deux la TVA sur les carburants. Elle est passée de 21% à 10%. Naïvement, je croyais que les socialistes français reprendraient à leur compte cette proposition. Mais comme le disait Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. N'est-ce pas Olivier Faure ?
Oui, mais nous ne sommes pas en Espagne, nous sommes en France et nous n'avons malheureusement pas les mêmes marges parce que tout simplement nous avons un gouvernement qui a laissé déraper les finances publiques pour des raisons que je pourrais réévoquer si vous voulez. Mais enfin, en ayant fait le choix de faire une politique au service des grandes fortunes. Il s'est privé d'une manne financière chaque année depuis presque 10 ans. Et donc aujourd'hui, nous avons un résultat qui est une dette massive et un déficit qui ne l'est pas moins. Donc nous sommes dans une situation qui ne permet pas ce genre d'acrobatie.
Au nom des grands équilibres budgétaires, les Français vont donc être sommés de se serrer un peu plus la ceinture. Car voyez-vous, ce gouvernement n'imagine même pas que les ultra-riches puissent être mis à contribution. Ils risqueraient de quitter le pays. Mais, départ pour départ, à persister dans ce déni du réel, d'autres pourraient bien quitter le pouvoir avant l'heure. La pétition contre la proposition de loi qui entend lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme a franchi le seuil des 500 000 signatures. Seule la pétition contre la loi Duplomb avait réussi à passer ce cap. Cette proposition de loi que l'on doit à Caroline Yadan, députée apparentée au groupe Ensemble pour la République, sera examinée à l'Assemblée nationale les 16 et 17 avril prochains. L'article 1 est particulièrement controversé. Il punit la provocation, même implicite, à des actes terroristes, ce qui donnerait au juge, si le texte était adopté, une très grande latitude pour faire glisser dans le champ de la législation antiterroriste tout propos critique. Imagine-t-on demain l'usage que pourrait faire de cet article un garde des Sceaux venu de l'extrême droite? Hypothèse qui n'est plus un cas d'école. Quant à l'article 2 de la proposition de loi, il réprime ce qui appelle en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies à la destruction d'un État reconnu par la République française. Les adversaires de la politique menée par le gouvernement israélien redoutent que cette disposition interdise désormais toute critique de l'État hébreu. Au demeurant, on remarquera que cet article, s'il venait à être voté, ouvre la boîte de Pandore. Il pourrait être utilisé contre tous ceux qui contestent les annexions ou les sécessions qui bouleversent les frontières. Ainsi, les fortes têtes qui soutiennent que le Kosovo indépendant n'existe pas et que cette province appartient à la Serbie n'en déplaisent à l'OTAN. Ceux encore qui estiment que l'Espagne occupe la Catalogne et le Pays Basque et qu'elle doit être chassée de ses provinces. Quant au Sahara occidental, bon courage pour arbitrer entre la souveraineté algérienne, la souveraineté marocaine ou l'indépendance du territoire. Je suis certain d'ailleurs que cette seule phrase va me valoir une avalanche de commentaires. C'est bon pour l'algo, cela étant. La position du Parti Socialiste sur la proposition de loi Yadan était particulièrement guettée. Lors de l'examen en commission, les députés du groupe se sont abstenus. Ce mardi 7 avril, à l'issue d'un débat soutenu, le groupe a affiné sa position.
Le groupe socialiste se prononce contre la loi Yadan. En préambule, nous tenons à réaffirmer que nous sommes pleinement conscients de la gravité du phénomène de l'antisémitisme en France. Je suis bien placé pour en parler dans ma circonscription. Je suis particulièrement concerné, à la fois sur des insultes, sur des agressions, sur des actes violents. Et il faut que les autorités réagissent sur ce texte-là. Nous le trouvons à la fois flou quand on parle d'apologie du terrorisme implicite. Qu'est-ce que ça veut dire une apologie du terrorisme implicite ? Sur le plan juridique, ça laisse une très grande latence au juge. Beaucoup d'ONG décrivent cette loi comme portant atteinte à la liberté d'expression, étant entendu qu'il est aujourd'hui l'incitation à la haine et l'apologie du terrorisme est déjà proscrit par la loi aujourd'hui. Ça n'apporterait donc rien. Il y a par ailleurs dans cette loi une forme d'essentialisation des Juifs de France qui serait intrinsèquement liée à la politique qui serait menée en Israël. Nous ne souhaitons pas cautionner cet amalgame et ce mélange entre la population juive de France qui peut tout à fait se désolidariser d'une politique qui serait menée en Israël.
Si le groupe socialiste a pris le temps de la réflexion, c'est parce que deux de ses députés, pas les moins connus, sont signataires de la proposition de loi, François Hollande et Jérôme Guedj. Chacun votera selon ses convictions, c'est l'avantage d'un groupe démocratique. La France Insoumise, qui a largement encouragé ses militants et ses sympathisants à signer la pétition, demande que celle-ci fasse l'objet d'un débat avant l'examen de la proposition de loi.
Il y a une règle qui est prévue à l'article 148 qui est qu'une fois que la pétition atteint 500 000 signataires, la conférence des présidents doit l'inscrire à l'ordre du jour. Et donc nous demandons, ce serait le minimum de respect, que cette pétition soit examinée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant l'examen du texte, soit avant le jeudi 16 avril.
C'est matériellement impossible. Il faut d'abord que la commission des lois se prononce, et ce n'est qu'ensuite qu'elle pourrait être examinée en séance publique. Débat qui ne sera pas sanctionné par un vote, à la différence des échanges dans l'hémicycle des 16 et 17 avril. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ces 500 000 signatures pèseront sur le débat. Il n'en sera que plus intéressant. Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme d'habitude, un pouce et un partage feront notre bonheur et celui de l'algorithme. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Pure Politique, la chaîne vous tend ses petits bras. Un clic sur la cloche et vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. Vos dons constituent l'essentiel de nos ressources. Ils sont la garantie de notre indépendance à l'égard de toutes les chapelles. Merci à tous ceux qui nous accompagnent sans faiblir. On se retrouve lundi pour un Pôle Express.